Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Semer la parole, vivre autrement et faire contrepoids à la culture par la contre-culture. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. Mainmise, la revue mythique du Québec des années 70.
C'est révolutionnaire peut-être dans le sens où on va peut-être essayer révolutionnaire dans le sens qu'on va essayer d'abord de parler de ce qu'on aime plutôt que de faire, je pense, comme beaucoup de gens dans les médias actuellement qui parlent d'abord de ce qu'ils n'aiment pas. Et je veux dire, je pense que c'est une approche peut-être utopiste, c'est ce qu'on a toujours reproché à Mamie. Je pense qu'il est possible de faire ce métier-là et de s'aimer, puis d'avoir du fun.
Les propos du rédacteur en chef de Mainmise, Michel Chevrier, c'est en novembre 1975. Du sexe, de la drogue et du rock'n'roll, mais pas que ça. Mainmise, c'est aussi une opposition à l'ordre moral, un rempart contre la société de consommation d'après-guerre. Bercé par le mouvement hippie, le magazine en appelle à la réalisation des rêves les plus fous et prône également un mode de vie alternatif dans l'attente d'un monde nouveau.
Une des choses qui frappe à la première lecture, là, c'est évidemment l'aspect typographique de la revue et l'insistance peut-être que vous mettez également sur Marshall McLuhan.
Marshall McLuhan, ça, c'est évidemment un de nos maîtres, mais je suis un journaliste écrit, moi, personnellement. J'ai jamais fait de radio ni de télévision, vraiment, je suis un typique de l'écriture. Et il nous a fait comprendre qu'il y a eu la télévision. Et pour nous, c'était très important. Et je pense que les journaux écrits n'en tiennent pas compte assez. Alors nous avons dit, bon, nous allons construire une chose écrite comme un scénario de télévision, avec, c'est-à-dire l'image puis le texte. On amène les personnes simplement à visualiser et à conceptualiser tout en même temps. Et ça marche très bien au niveau grand public.
Justement, vous parlez du grand public. Est-ce que c'est le public que vous visez avec Mainmise?
Oui, nous voulons, nous avons tous les cheveux longs. Mais nous voulons vraiment viser vraiment le grand public le plus ordinaire. On veut écrire simplement sur des choses importantes pour tout le monde.
Le tirage est de combien ?
Premier tirage, 5000 exemplaires de premier numéro. Il nous faut 5000 pour vivre, c'est pas difficile. À 5000, on n'est pas dans le trou.
Et le deuxième, c'est pour quand ?
Le deuxième, c'est pour dans 2 mois. C'est 6 numéros la première année. Et si nous résistons, on passera mensuel, et si nous résistons, on passera hebdomadaire, et si nous résistons, nous passerons quotidien.
Pour remplacer le devoir.
Pas pour remplacer le devoir, mais pour remplacer Radio-Canada.
Mais oui, les ambitions étaient grandes à l'époque. Les propos de Jean-Basile, fondateur de Mainmise, c'était le 28 octobre 1970. Alors pour nous en parler, mon invité, Jean-Philippe Warren, professeur de sociologie à l'Université Concordia à Montréal, auteur d'un livre avec André Fortin sur la contre-culture qui a pour titre « Pratiques et discours de la contre-culture ». Bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas de la génération Mainmise, moi non plus. Pourquoi dit-on que Mainmise a été aux années 70 ce que Cité Libre a été aux années 50?
Ce que Cité Libre a été aux années 50, est-ce que Parti pris a été aux années 60? C'est-à-dire que chaque décennie s'est reconnue dans une revue phare qui exprimait non pas la voix de l'ensemble de la population québécoise, mais d'une partie importante de celle-ci, souvent de la frange la plus avancée qu'elle ait provoquer les changements sociaux qui allaient suivre. Donc, Cité Libre s'adressait davantage aux collégiens des collèges classiques. Parti pris, c'était la revue qu'on retrouvait souvent sur les bancs des universités, des facultés de sciences sociales. Et puis, Mémis, ça a été la revue qui est apparue à peu près en même temps où on établissait le réseau des cégeps. Et c'est pourquoi la revue était beaucoup lue par les jeunes.
Mais parlons du contexte de l'époque. Une revue fondée en 1970, en pleine crise d'octobre, c'est pas anodin quand même, là.
C'est pas anodin. Lorsqu'on disait à Jean-Basile « Pourquoi vous révoltez pas contre les felkistes qu'on retrouve derrière les barreaux? » Il disait « Ben, beaucoup de ceux qui lisent Mainmise sont aussi emprisonnés, pas pour les mêmes raisons. Ils ont commis des crimes, mais des crimes parce qu'ils étaient des gens qui étaient des déviants aux yeux des autorités publiques, parce qu'ils, notamment, ils fumaient et consommaient de la drogue. » Et donc, il disait « Ben, c'est le temps d'arriver avec de grands bouleversements pour le Québec. » Placer le Québec sur une carte qui est à l'échelle cosmique, donc des changements qui ne sont pas seulement confinés à la société québécoise telle qu'elle est délimitée par ses frontières politiques, mais des changements qui sont globaux, qui sont généraux et qui permettront de refaire une toute autre société, une société alternative par rapport à celle de l'année 70.
Oui, il y a vraiment une volonté on parle même d'un monde nouveau, là. C'est comme ça qu'on envisageait l'avenir.
Tout à fait. Et on dit souvent on ne pouvait pas faire confiance à ceux de plus de 30 ans. Hein. C'était le slogan des gens qui lisaient Mémise, parce qu'on se disait, ben, ceux qui étaient des... On appelait, d'un terme pas très gentil, mais ceux qui étaient des vieux croulants, hein, oui, appartenaient à un monde qui était désormais révolu et vermoulu, un monde qui était dans ses derniers kilomètres, et qu'il fallait penser un autre type de société qui soit d'abord à l'échelle humaine, mais aussi qui soit plus à même de satisfaire les véritables besoins des individus. On disait, on est dans une société qui est faussement rationnelle. C'est une rationalité qui produit de l'irrationalité, elle produit de l'anonymat, elle produit de la dépression, elle produit de la surconsommation, elle produit de la pollution. C'est une société qui est viciée à la base. Il faut imaginer, donc, un autre avenir.
Oui. Et tout ça dans la foulée du mouvement hippie, hein, qui demeurait quand même suspect à ses débuts. On va écouter un exemple ici. C'est le journaliste Michael McAndrew dans le quartier Yorkville à Toronto, au lieu de la culture hippie à l'époque. C'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un quartier très, très, très friqué à Toronto. C'était à notre télé en octobre 1967, donc avant Mémise.
San Francisco et son université de Berkeley ont assisté, il y a environ 3 ans, à la naissance des premiers spécimens de hippies au monde, cette nouvelle race d'adolescents dont il est souvent difficile, encore aujourd'hui, de distinguer le mâle de la femelle. Incapables encore de diriger ou de formuler leur révolte, ils s'y adonnent néanmoins tout entier, et la leur n'a rien de commun avec la révolte traditionnelle des jeunes générations. En procédant systématiquement au dérèglement de tous leurs sens, ils font l'expérience de leur saison en enfer, et beaucoup plus littéralement peut-être que Rimbaud, dont les œuvres du reste font partie des lectures de chevet de leurs aînés, les hippies. On peut condamner les hippies, les ridiculiser, les critiquer, parce qu'ils sont sales, ont l'air fous et ne font rien. Mais l'ironie de la chose, c'est que la seule raison pour laquelle ils ont coupé tous les ponts est de pouvoir tenter, à leur aise, d'appliquer à la lettre les hauts principes dont supposément s'inspire la civilisation occidentale.
Voilà, pas très peu flatteur quand même de la culture hippie. C'était à Toronto, à notre télé, 1967. Mais j'ai choisi l'extrait parce que ça illustre en même temps, et puis vous le disiez, le schisme entre la société traditionnelle telle qu'on la connaît et celle imaginée, rêvée par une certaine jeunesse. Là, quand on parlait des vieux croulants...
Le conflit était générationnel, oui. même si ce n'était pas tous les jeunes qui étaient hippies.
Oui, bien
sûr. À peu près tous les hippies étaient jeunes. Hein, donc, il y avait vraiment un fossé qui séparait les deux mondes. Et c'est ces deux mondes qui se côtoyaient parce que le mouvement était tellement rapide qu'on avait assisté à une sorte de basculement en l'espace de très peu d'années. On appelle ça les années 68. Pourquoi les années 68? Parce qu'à la fin des années 60, les choses semblent s'accélérer. On passe des collèges classiques au cégep, de la bière tablette au LSD, de la robe longue à la mini-jupe, de la musique yéyé à Frank Zappa, puis au Québec à Lindbergh de Charlebois. On a l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe au Québec et c'est vraiment... pour les contemporains de cette époque, quelque chose qui soit extrêmement difficile à vivre parce qu'on a l'impression qu'on est largué par la génération nouvelle ou encore une entreprise absolument exaltante. Et là, ceux qui se retrouvent autour de la revue Mémise, ils essayent, eux, d'enfanter le monde qui s'en vient.
Oui. Alors, c'est dans ce contexte que naît Mémise. C'est quoi Mémise? On retrouve quoi là-dedans, dans ce magazine?
C'est une revue qui a duré 8 ans. Donc, elle est fondée, lancée en octobre 1970, on vient de le dire. Et puis, elle va s'éteindre à l'été 1978. Donc, pendant 8 ans, ça a été le vaisseau amiral de la contre-culture. On pourrait dire que c'est l'almanach des hippies. On y retrouve à peu près de tout. C'est un Reader's Digest de tout ce que les gens qui sont dans cette mouvance contre-culturelle doivent savoir. Donc, on a autant de la bande dessinée que des textes éditoriaux, que des dossiers sur comment faire pousser des herbes chez soi, que des positions du Kama Sutra, les nouvelles technologies, l'emballement pour l'informatique, le retour à la Terre. C'est vraiment un guide, là, une espèce de self-help book en bon français, pour permettre à ceux qui vivent un peu partout au Québec de s'approprier ce mouvement qui est en pleine progression à l'époque.
Oui. Quand on le lit aujourd'hui, c'est même un petit peu cliché quand on évoque les champignons magiques, le sexe tantrique, la marijuana, on retrouve tout ça là-dedans, une espèce de condensé. Puis en même temps, c'est très américain dans le ton puis dans le propos. Hein, même. Il y a bon nombre d'articles qui sont carrément des textes traduits de magazines américains.
Oui, bien, la revue va se québéciser, c'est ça. La revue va se québéciser au fur et à mesure où elle progresse, mais au début, c'est très ancré dans la réalité américaine. D'abord parce que, comme disent les Mémisiens, c'est comme ça qu'ils s'appellent, Mémisiens, donc comme disent les Mémisiens, leur mec, c'est San Francisco. C'est de là un peu que tout a commencé. Donc, ils ont les yeux rivés sur les États-Unis. Et puis, beaucoup des textes qu'on va retrouver dans Mémise, à peu près la moitié des textes thématiques de Mémise, donc je ne parle pas de la fiction, mais les textes thématiques, viennent des États-Unis. Pourquoi ça vient des États-Unis? Parce qu'ils peuvent piger, puiser dans un répertoire extraordinaire qui est l'Underground Syndicate Press, qui est un syndicat de presse underground américain, qui est un consortium où lorsqu'on est membre de ce consortium, on a le droit, on a la permission de reproduire tous les textes de toutes les revues qu'on y retrouve. C'est à peu près 200 revues carrément. Qui sont là, oui. Et donc, on peut faire littéralement mainmise, d'où le nom de la revue, c'est la, uh-huh. la revue vient de là, de faire mainmise sur l'ensemble de cette production. Évidemment, les gens qui ont le devoir, qui ont la responsabilité de produire d'abord 6 numéros par année, puis ensuite 12 numéros par année, ne se font pas gêne d'aller évidemment chercher des textes-là, parce que produire une revue aussi dense, là, aussi fouillée que mainmise, mm-hmm. ben, c'est quelque chose de très compliqué. Si on peut se faciliter la tâche en traduisant quelques textes, bien, évidemment, c'est quelque chose qu'on s'empresse de faire.
Oui, tout à fait. Puis, issu de magazines, de journaux américains, bon, dans le monde universitaire, hein, un peu partout, c'est beaucoup plus gros, donc il y en a beaucoup plus, évidemment. On va écouter d'ailleurs ce qu'en disait à ce propos Jean-Basile, le fondateur de Mainmise, novembre 1975, donc le magazine qui avait alors 5 ans.
Le premier rôle de Mainmise, quand j'étais encore dans l'establishment, c'était un rôle de compensation. C'était publier ce qui n'était pas disponible en français. Et les Québécois lisent pas en anglais, simplement. Ils vont pas dans les librairies anglaises. Ça les intéresse pas de lire en anglais. Alors, il fallait donc rendre disponible ça. C'est ce qu'on a commencé à faire.
Et vous avez défini ça aussi comme une aventure mystique. Mais quand on regarde l'ensemble des numéros de la revue, des 21 numéros, on remarque qu'il y a certains sujets de prédilection et que dans un langage souvent très cru, on va parler de sexe, de drogue, de dope. Comment conciliez-vous cette aventure mystique et ces sujets?
Mais il est évident, en tout cas pour moi, et je pense pour la plupart des gens ici, que s'il n'y avait pas eu une base spirituelle absolument ferme, il n'y aurait pas de mainmise, parce que simplement, ce n'est pas possible au 20e siècle, dans un pays comme l'Amérique du Nord et le Québec même, de fonder un journal si on n'a pas en background psychologique la volonté de le faire. Cette volonté, elle peut être que spirituelle. Ce n'est pas pour faire de l'argent qu'on fait mainmise, ce n'est pas pour être célèbre, c'est pour rien, c'est parce qu'on pense qu'il faut le faire. Donc évidemment, mainmise a une base spirituelle absolument indiscutable. La spiritualité, c'est participer à l'univers, c'est essayer de comprendre les choses et d'accepter en tout cas tout ça.
Les propos du fondateur Jean-Basile qui, en début d'émission, on l'entendait, disait « Non, on veut s'adresser à un large public. Bon, » la vérité, c'est que ça demeure quand même et ça va toujours demeurer assez niché, mainmise.
Oui, ben, c'est une revue qui tire entre 5 000 et 20 000 exemplaires. Là. Vraiment, le 20 000, c'est vraiment le chiffre extrême. Oui. Et elle est distribuée en partie pendant un certain moment en France, donc ça lui permet d'avoir un autre public. Mais disons que c'est quand même assez restreint comme lectorat et ça va être une bataille continuelle pour ceux qui produisent Mainmise, d'arriver non seulement à livrer chaque numéro, parce qu'on s'appuie beaucoup sur des gens qui sont des bénévoles, oui. mais aussi pour distribuer le numéro dans l'ensemble de la province et au-delà. Et on retrouve dans la revue assez souvent des bilans financiers, donc c'est des freaks, comme on les appelait à l'époque, hein, et puis on les appelait aussi des freaks, mm-hmm. mais qui s'occupent beaucoup de fric, parce que c'est évidemment un casse-tête perpétuel pour ceux qui s'occupent de la revue, d'aller de numéro en numéro, et évidemment, la revue va finalement mourir parce qu'elle n'arrive pas à faire ses frais.
Oui, ben, on reviendra à la mort, mais sur l'influence, hein, quel mouvement on peut associer comme ça à Mainmise?
Alors, il y en a plusieurs qu'on peut associer à Mainmise et ce sont des recoupements, ce sont des chevauchements. C'est pas toujours parfait. Il y a des, par exemple, si on pense aux coopératives, ben, il y a plein des gens qui sont dans des coopératives d'habitation, des coopératives d'alimentation, qui ne sont pas des freaks. Mais par ailleurs, les freaks se sentent, on pourrait dire, en proximité idéologique avec des gens qui organisent des coopératives. Et donc, on va voir, par exemple, des gens mettre sur pied des organismes qui sont là pour distribuer la nourriture saine pour la santé, on dirait aujourd'hui biologique. Logique. Mm-hmm. Et puis, oui. on va retrouver aussi des gens de la contre-culture dans les garderies pour s'occuper des jeunes enfants, parce qu'on croit que l'éducation qu'on donne jusque-là aux enfants est inadaptée, inadéquate. On les traite comme des cruches à remplir, alors que les enfants, c'est des êtres libres, c'est des êtres avec déjà leurs propres intérêts, leurs propres valeurs, et il faut les accompagner davantage dans leur cheminement que de les guider comme des chevaux avec des œillères et des rênes. Et donc, on se trouve à voir dans la contre-culture beaucoup de gens qui non seulement tripent fort, comme on le disait, mais aussi qui s'activent. Ce sont des gens qui ont constamment des projets et celui qui est le plus connu parmi tous leurs projets, je pense, aujourd'hui, en tout cas, celui qui évoque le plus d'images, c'est les fameux retours à la Terre. On va avoir la fondation de quelques communes. C'est pas beaucoup. C'est peut-être une centaine, peut-être 200 communes là, qui vont être fondées à la grandeur du Québec. Et on se dit, c'est à partir de là, dans ces petites petites communautés de base, c'est à partir de là que tranquillement, en percolant, on pourrait dire, on va finir par contaminer, je peux utiliser ce terme, l'ensemble de la population et faire en sorte que la contre-culture va triompher. Donc, on commence vraiment de manière assez modeste, on donne l'exemple soi-même de ce à quoi pourrait ressembler la société de demain et on espère comme ça faire des émules.
Oui. Il reste néanmoins qu'une réalité, puis vous l'avez dit, ils passent leur temps à compter puis à faire des bilans financiers parce que faire vivre une revue comme celle-là, c'est pas facile. Et c'est, on pourrait dire, ce qui m'a fait m'aimer, c'est la fragilité financière, la précarité permanente.
Oui, il faut arriver à équilibrer son budget à la fin du mois et c'est pas toujours facile, bien que les gens ne comptent pas les heures qu'ils donnent à la revue. À un moment donné, la revue va même elle-même être une commune. Les gens vont vivre dans les locaux de la revue et essayer de la faire vivre, sinon survivre. Et puis, à un moment donné, évidemment, les huissiers rattrapent la revue. On doit beaucoup d'argent à l'imprimeur. Et à l'été 1978, malheureusement, il faut prendre la décision difficile de mettre fin à l'aventure de mainmise.
Oui, puis on va d'ailleurs écouter le rédacteur en chef de l'époque, Georges Calle, qui annonce la mort du magazine. C'était à notre radio.
Comment savoir quand tu es au moment où tu vas faire l'extrême onction à un vieil ami? Je peux annoncer ici ouvertement qu'après 8 ans d'existence, mainmise a le droit à un repos. Requiescat in pace, RIP. Et
c'est
que mainmise est en train de mettre les derniers, je ne sais plus le mot qui suit, à la fermeture de mainmise.
Pourquoi vous décidez de fermer mainmise, de l'enterrer, de le laisser disparaître?
De le démoléculariser.
Comment dire? C'est une vieille loi biologique. Au bout d'un certain temps, tu disparais pour faire place à d'autres choses. Quand tu as 85 ans, tu meurs. Les chats, au bout de 14 ans, meurent. Les chiens, tout meurt. Mainmise, quand on l'a fondé à l'origine, l'équipe qui l'a fondé a dit, si ça meurt au numéro 1, ça meurt au numéro 1, ça meurt au numéro 2000, ça meurt au numéro 2000, mais quand ça va mourir, point. Pas de pleurs, pas de regrets, on continue. Et on s'est rendu compte que, espèce de hasard, au numéro 78, en 1978, ça meurt. Et puis, aucune larme, au contraire.
Voilà, aucune larme, donc 8 ans plus tard, l'aventure qui aura duré 8 ans, de 1970 à 1978, on peut dire que le magazine meurt comme ça de sa belle mort. Il va en rester quoi de l'utopie de mainmise par la suite?
Il va en rester des héritiers, on va dire, directs. Par exemple, si on pense juste à une revue comme Temps fou, la revue Temps fou reprend beaucoup des thématiques, des idées, des projets qu'on retrouvait dans mainmise. Donc, on pourrait dire qu'il y a une espèce de filiation entre la revue mainmise puis certaines autres revues qui vont lui succéder. Pour ce qui est des idées qui étaient promues par la revue mainmise, il y en a quelques-unes qui se sont cassées la gueule, puis il y en a quelques-unes, au contraire, qui ont fructifié. Alors, si on regarde des idées qui ont mal vieilli. Par exemple, l'idée de faire une société qui serait complètement alternative, libérée de la logique du marché, du régime capitaliste, de la surconsommation, je pense que de ce côté-là, malheureusement, l'avenir n'a pas donné raison aux mémisiens. De l'autre côté, si on regarde la façon d'éduquer ses enfants, qui est beaucoup plus souple que par le passé, qui fait moins... qui agite moins la férule, disons,
la règle
qu'autrefois, on voit qu'on a fait d'énormes progrès en direction de ce que souhaitaient les gens de la revue mainmise. La nourriture biologique, c'est pas parfait, bien entendu, mais disons que le mot tofu, qui autrefois ne disait rien à personne, aujourd'hui est complètement rentré dans le vocabulaire. Les pistes cyclables, c'est pas juste des gens de mémis qui sont battus pour ça, mais ça faisait partie de ce pourquoi ils luttaient. Les pistes cyclables, désormais, il y en a qui commencent à être construites et acceptées dans une ville comme Montréal puis d'autres villes du Québec. Donc, on voit que sur certains domaines, sur certaines questions, le Québec a fait du chemin.
Oui. Même si l'époque, ben, vous l'avez dit, sera radicalement différente par la suite, hein, des hippies, on va passer aux yuppies dans les années 80. C'est le triomphe peut-être du capitalisme, en tout cas de la consommation. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des idées qui sont restées. Et c'est assez curieux parce que le fondateur du magazine, Jean Basile, on peut dire, l'avait vu venir, en tout cas pour certains aspects, en partie. On va l'écouter. C'était en juin 1972.
La plupart des gens de la contre-culture sont maintenant des techniciens. Ce sont des gens qui s'intéressent beaucoup à la technologie, ou même au niveau des arts. Le vidéo se fait beaucoup maintenant par ordinateur. Ce sont des gens formés lentement, qui avaient quoi, 18 ans il y a 10 ans, à Berkeley par exemple, qui ont maintenant 28 ans, qui étaient des petits étudiants de première année autrefois, qui sont maintenant des docteurs. Je pense qu'en ce moment, ce qu'on appelle la contre-culture s'organise, réunit ses effectifs, travaille, crée des cellules qui vont collaborer entre elles, et je pense que d'ici quelques années, il y aura peut-être moins de flash autour de ça, et au moins ça aura été fait. Je pense que Mamise a commencé très modestement au Québec à semer la parole, peu importe si elle est bonne ou mauvaise, à diffuser ses idées, à faire comprendre aux gens que ce qu'ils veulent, ils ont le droit de l'obtenir, et que s'ils veulent l'obtenir, il faut qu'ils s'y mettent.
C'est intéressant, ça nous dit que, ben, oui, c'est vrai qu'il reste un fond de cette contre-culture quand il parle de ces étudiants qui deviennent des techniciens, qui explorent, parce que c'est intéressant, dans les numéros, ils parlent souvent d'informatique,
oui,
hein,
tout
qu'on
n'associe
pas spontanément à des free, justement,
non.
Et puis les Bill Gates de l'époque et les Steve Jobs étaient, on peut dire, oui, des héritiers un peu de ça.
T'es pas Bill Gates, mais t'es plus nerd que Steve Jobs, mais Steve Jobs définitivement faisait partie de ce courant de la contre-culture, et puis on se disait que grâce à l'informatique, on allait pouvoir créer des réseaux, parce qu'une des ambitions des gens de la contre-culture, c'est de relier les gens, de faire en sorte que les gens communiquent, oui, partagent des choses, non seulement toute la planète, hein, tous les gens qui habitent ce petit vaisseau terrestre, mais également bon, avec les grandes forces de la nature, les grandes forces cosmiques. Et l'informatique faisait partie des outils dont l'humanité allait disposer dans un proche avenir pour réaliser donc cette vaste ambition de la contre-culture. Et c'est pourquoi un des films qui fascinait le plus les hippies, c'est drôle à dire aujourd'hui, mais c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, donc c'est un film de science-fiction,
oui,
et parce qu'on y retrouvait là un peu les aspirations contre-culturelles profondes.
Oui. Et mais bon, on connaît la suite, hein. C'est devenu aussi les GAFA. Et on était loin de la société anticapitaliste imaginée par les Mamisiens. En tout cas, c'est une aventure passionnante qui aura duré 8 ans. Revue, oui, que bon, qui a été publiée à quoi, 5 000, vous disiez 20 000 exemplaires tout au plus, mais qui a eu une influence sur la décennie des années 70. Mon invité, Jean-Philippe Warren, professeur de sociologie à l'Université Concordia à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.
C'est un plaisir.
Merci également à toute l'équipe d'aujourd'hui. L'histoire à la recherche Sabrina Desnoyers, recherche d'archives Jacinthe Mayotte, site internet c'est Ronald Georges, à la mise en onde de Jacques Lebrun, réalisation Jacqueline Castonguay. Si vous avez envie d'écouter ou bien de rattraper nos émissions, vous pouvez toujours le faire sur notre site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio en balado, c'est exclusif. Et puis si vous voulez nous écrire, commentaires, suggestions, wow, c'est toujours un plaisir de vous lire, vous pouvez le faire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire au singulier à commercial radio-canada.ca. Ici Maxime Gauthier, merci d'avoir été là. Bonne soirée, à une prochaine, au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.